ça bouge, ça évolue, ça change, c'est à la mode, ça ne l'est plus. Ça crée, ça invente, ça tronque, ça agglutine, ça fait genre ou pas, féminin, masculin, inclusif, bref, c'est vivant, c'est élastique, voilà voilou. Vous l'avez compris, la langue, c'est vivant, on le répète souvent ici dans l'émission, et la sémantique, c'est élastique, formule que l'on doit à James, auteur de bande dessinée qui, après un premier tome, en publie un second. Bonjour James.
Bonjour.
Second ou deuxième ? D'entrée de jeu, c'est toute la question, on dit quoi ?
En fait, on peut dire les deux comme on veut. C'est-à-dire que souvent, on suppose que second veut dire qu'il n'y a pas de troisième derrière. Pour ça, on dit la Seconde Guerre mondiale, quand on est optimiste, en se disant que voilà, la troisième n'est toujours pas arrivée, ce qui n'est peut-être pas vrai. Et alors qu'en fait, les deux termes veulent dire exactement la même chose. Et second était arrivé avant deuxième. C'est-à-dire qu'on a utilisé beaucoup plus second jusqu'à la moitié du XXe siècle à peu près. Et ce n'est que récemment que deuxième l'a dépassé dans l'usage quotidien. Mais en fait, ça veut dire vraiment la même chose.
Et vous, vous dites quoi ? Tome 2 ?
Tome 2, oui, c'est beaucoup plus simple.
C'est beaucoup plus simple.
Puis ça évite des interprétations.
Et ça évite peut-être de pinailler sur le vocabulaire, comme on dirait dans ma région, dans le sud-ouest.
Oui, mais je crois qu'on adore ça en France.
Dans la vie quotidienne, est-ce que vous êtes attentif à ces subtilités de la langue ? Certains diraient à ces complexités de la langue. Par exemple, vous racontez dans votre livre la distinction entre nombre et chiffre, alors que souvent, dans l'usage, on prend un mot pour l'autre et inversement.
Déjà c'est ça qui m'a mené à faire ces livres, c'est que c'est cet intérêt pour la langue et à toutes les absurdités en fait qu'on peut déceler, parce qu'on nous dit qu'il y a plein de règles, mais en fait les règles sont transgressées en permanence. Et justement sur cette distinction entre nombre et chiffre, par exemple quand on dit un chiffre d'affaires pour une entreprise, en fait c'est un nombre, c'est pas un chiffre, parce qu'en fait les chiffres sont l'alphabet des nombres, c'est-à-dire que les chiffres ça va de 0 à 9 et les nombres en fait c'est ce qu'on compose ensuite avec les chiffres, sauf que voilà, il y a des expressions comme ça où même l'Académie française a accepté que chiffre pouvait être un nombre.
Ah, l'Académie française.
Ouais, nos amis.
Nos amis, vos amis. Pour les chiffres, vaste question d'ailleurs. Pourquoi dit-on, et c'est vous qui soulevez cette question, pourquoi dit-on 15, 16 et tout d'un coup 17 avec un tiret ou 18, ce qui est forcément beaucoup plus clair, par exemple, pour qui apprendrait notre langue. 17, ça fait 10 plus 7.
Oui. Disons que les premiers chiffres des dizaines, 11, 12, 13, 14, 15, viennent du latin. En fait, c'est une contraction de termes latins, undécim, duodécim, qui ont donné 11, 12. Et quand on arrivait à 17, ça donnait 16. Très proche de 16. Donc en fait, finalement, à l'époque, ils ont décidé de changer la façon de dire ces nombres. Et on le retrouve aussi en italien, en portugais, en espagnol. Cette mutation des chiffres à partir de 15 ou 16, ils changent un peu de dimension.
Donc comprendre l'évolution de la langue suppose de remonter le temps. C'est essentiel.
Oui, en fait, c'est l'histoire de la langue, oui, tout à fait.
Alors, toutes ces questions, toutes ces réponses se trouvent dans votre livre, qui, doit-on le préciser, est une bande dessinée, parce que à vous écouter, c'est pas tout à fait évident, et le sujet lui-même n'est pas éminemment graphique, ni même haletant. Pourquoi vous êtes passionné pour cette question de la sémantique en BD ?
Bonne question. Déjà parce que ça n'existait pas. Il n'y avait pas de livre jusqu'à présent qui traitait du sujet. Et puis moi, c'était un sujet qui m'a toujours intéressé, à vrai dire. C'est-à-dire que ça remonte en fait à mes études de post-bac. À l'époque, j'avais fait une prépa HEC, nul n'est parfait. Et donc justement, à cette époque-là, on avait en français et philo des cours avec un thème commun. Et là, le thème en question, c'était le langage. Donc j'ai étudié le langage en français et philo avec donc, beaucoup d'heures par semaine pendant 2 ans. Et ce qui fait que ça a façonné aussi quand même ma propre culture. Et quelques années après, bien longtemps après, j'avais envie de revenir à ça. Et ça, c'est venu aussi par la création d'une revue qui s'appelle La Revue Dessinée, qui avait été lancée maintenant il y a 12 ans par des amis auteurs. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer dès le numéro 1. Et j'avais proposé cette rubrique. Et c'est le titre, en fait, c'est dès que j'ai trouvé le titre, La sémantique, c'est élastique, que la rubrique s'est imposée. En fait, c'est venu de cette rime dans le titre que j'ai su vers quoi j'allais.
Donc ça veut dire que vous avez trouvé un public. La preuve avec ce tome 2, ça veut dire que ça marche. Même si le mot et la formule est impropre.
Oui, ça fonctionne, on va dire.
Ça fonctionne, oui. Ça vend.
Ça vend. Après, voilà, ça reste assez pointu. Donc, je pense que ça s'adresse surtout à des gens qui, intéressés par la langue, sont forcément... ce n'est pas non plus un ouvrage universitaire. C'est-à-dire que j'essaye de mettre ça à la portée de tout le monde. Moi-même, je ne suis pas du tout linguiste. Je suis juste intéressé par le sujet.
Oh, un peu sur les bords, quand même. Un peu prof. Vous aimez apprendre.
Faire la leçon.
Connaître. Ouais, faire la leçon.
Faire la leçon, oui. Et bah, d'ailleurs, le personnage principal qui sert de fil rouge, en fait, qui est un peu une sorte de maître de conférence débraillé, qui vient faire la leçon. Voilà, c'est un peu ma projection où je me mets à travers ce personnage-là, qui est un peu lisse. Mais oui, bien c'est...
Parce que c'est génial d'avoir un super prof. On aime tous, on a tous envie, on aurait eu tous envie d'avoir un super prof dans sa vie.
Oui, et puis moi je suis entouré de profs également, enfin, dans ma famille, donc je suis cerné, on va dire.
Vous êtes à bonne école. Alors on va tirer sur l'élastique de la langue, mais tout d'abord une découverte, c'est le coup de cœur de Laura, la réalisatrice de l'émission. Une jeune artiste qui va bientôt sortir un EP, Alma Rechtmann, Dans ma maison.
Dans ma maison, dans ma maison, il y a oui, dans ma maison. Dans ma maison, il y a, oui, il y a des coins jolis et des chambres mal rangées. Il y a, oui, des murs pourris et puis la vaisselle cassée. Dans ma maison, dans ma maison, dans ma maison, dans ma prison, dans ma prison, il y a, oui. Dans ma prison, il y a oui. Dans un cachot, la jalousie et la mauvaise foi aussi. Elle me regarde et se surveille. Dans ma prison, il y a la nuit. Les secrets endormis dans ma prison.
Alma Rechtmann sur RFI est aujourd'hui un auteur de bande dessinée, accro aux mots, James pour le tome 2 de La sémantique, c'est élastique. Alors c'est quand même assez paradoxal d'aimer les mots quand on est un dessinateur.
Oui, mais
seriez-vous un écrivain raté ?
Une autre sorte d'écrivain plutôt, on va dire. Non, en fait aujourd'hui je me définis avant tout comme un scénariste qui dessine. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait de formation de dessin. Comme j'ai dit, j'ai fait une prépa HEC et tout ça. Enfin, j'ai fait des études un peu lambda. Et je suis venu au dessin après, et totalement autodidacte. Donc, je me sens autant, voire plus scénariste que dessinateur.
Mais vous privilégiez quoi, un bon mot ou un bon dessin ?
C'est le bon mot quand même. Mais après, voilà, comme disait Napoléon, hein, avec un bon dessin. Ouais.
En tout cas, vos personnages parlent beaucoup. C'est une BD bavarde, avec donc ce personnage central qu'on retrouve de chapitre en chapitre, avec cravate et cigare, qui est, vous l'avez dit, un genre de prof. Mais est-ce qu'il pourrait vous ressembler, par exemple? Il n'a pas de nom. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas de nom.
Non, bah, il est volontairement un peu transparent, puisqu'en fait, le but est de mettre en valeur les mots et les autres personnages qui interviennent dans les rubriques. Et d'ailleurs, j'ai choisi un trait très simple pour le faire. C'est très schématique pour que le dessin ne vienne pas concurrencer le texte. Effectivement, là, c'est le texte qui est quand même le cœur de la bande dessinée. Et après, je l'ai fait un peu comme une sorte d'alter ego. Enfin, voilà, je me projette à travers ce personnage-là. Donc, je l'ai fait avec plus trop de cheveux sur la tête, puisque je n'ai plus trop de cheveux sur la tête.
Vous avez beaucoup plus que lui, quand même.
Oui, oui, j'ai encore quelques restes. Mais je l'ai poussé, du coup, un peu. J'ai poussé l'épuration jusque-là, on va dire, et du trait. Et puis, avec une assez corpulence, que je me suis toujours vu gros, même si je ne suis pas forcément toujours gros. Mais voilà. Donc, en fait, tous mes alter ego sont toujours un peu gros, voilà, parce que c'est une façon de me projeter à travers eux.
Et cravate et cigare, c'est pour.
C'est le côté un peu respectable du personnage, mais en même temps, il porte une chemisette. Et donc, la chemisette vient contrecarrer ce côté-là, puis avec un petit pan de chemise qui descend, qui sort. Donc, en fait, il y a un petit côté négligé en même temps. Donc, c'est un peu comme un prof de fac. Oui.
Alors, en tout cas, d'un chapitre à l'autre, vous vous intéressez, il nous intéresse à tel ou tel sujet de la langue, comme par exemple, on va prendre quelques exemples, les tics de langage. Alors, cela peut paraître assez anodin, les tics, mais des linguistes passés au moule de l'université s'y intéressent, comme Julie Neveu.
Le tic, ça vient de ticchio en italien, et c'est d'abord une sorte de spasme du cheval qui régurgitait, qui avait du mal donc à absorber sa nourriture. Et c'est assez drôle de penser à cette étymologie quand on pense en effet que lorsqu'on a un tic de langage, c'est qu'on n'est plus trop en train de dire quelque chose véritablement, mais de faire une prolifération assez physique, une sorte de gêne physique qui se transmet par un mot vide de sens.
Et on est passé donc de l'animal à l'homme pour parler du tic. Et depuis très longtemps, je crois que c'est le XVIIe siècle déjà, hein, l'usage est attesté à cette
époque-là.
Tout à
fait, déjà au XVIIe siècle. Et surtout, ce que vous dites qui est intéressant, c'est que quand on a des tics, on se révèle en tant qu'animal linguistique plus qu'en tant que homo sapiens. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une société et on chope les tics comme des virus et on les répète, on les transmet, on fait partie de notre environnement.
James, qu'avez-vous à rajouter au point de vue de Julie Neveu sur les tics? Parce que vous y consacrez un chapitre entier de votre livre.
Oui, parce qu'en fait, ça nous énerve souvent, enfin, parfois à juste titre, parce que quand c'est utilisé de façon abusive, mais ils sont indispensables en fait à la communication, les tics. C'est ce qu'on appelle la fonction fatigue du langage, c'est que ce sont les mots qui créent des liens. C'est-à-dire que même quand on fait un mail, souvent on va commencer par une formule un peu creuse, comment ça va, etc. Même si on se fiche un peu de la réponse, qu'on n'aura pas la réponse à cette question, et on va le finir avec des cordialement, enfin, tout ça. Ce sont aussi des tics qui créent la connexion entre les interlocuteurs.
Alors vous dites que vous n'êtes pas linguiste, mais quand même vous êtes historien, vous avez quand même beaucoup travaillé sur cet album, parce que vous nous rappelez que Molière, Racine ou Balzac avaient eux aussi des tics. Or, c'est quand même les grands écrivains de la littérature française.
Oui, les tics ont existé de tout temps. Et d'ailleurs, il y avait une hypothèse comme quoi Corneille aurait écrit les pièces de Molière. Et en fait, en analysant les textes, et notamment les tics de langage, on a pu repérer qu'en fait, il n'y avait pas les tics de Corneille dedans. Parce que chacun avait ses propres tics. Corneille utilisait beaucoup le grand O avec un accent circonflexe.
Orage.
Voilà, orage, au désespoir, etc. Donc, alors que Molière en avait d'autres. Donc c'était une façon de pouvoir éradiquer un peu cette hypothèse.
Alors je ne sais pas si je vais relire Balzac, mais vous dites qu'il y a beaucoup de bas. Chez Balzac. Alors, pour expliquer l'évolution de la langue, le sens des mots, il faut forcément remonter le temps, ce que vous faites d'ailleurs avec ces planches et certains de ces chapitres. Il y en a un notamment consacré à la Révolution française, parce que là, il y a bien eu une révolution linguistique, enfin une tentative de modifier complètement le langage et de dénommer, par exemple, le nom de certaines villes. Est-ce que c'est vrai, James, que Grenoble, sous la Révolution française, s'est appelé Grelibre? Parce qu'il fallait enlever toute référence à la noblesse.
Parce que comme quoi noble faisait référence à la noblesse. En fait, non, pour Grenoble, c'est arrivé plus tard. C'est, si je ne me trompe pas, c'était le roi suivant.
Mais c'est vrai.
C'est vrai. C'est-à-dire que. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce genre de changement ne prenne pas. Enfin, c'est comme les changements de ville. Enfin, on a vu ça avec les soviétiques après, enfin, quand on, dans les cours d'histoire. Les changements de ville un peu. Ne durent pas dans le temps, s'ils ne sont pas acceptés par la population ou
Oui, donc Bourg-la-Reine est resté Bourg-la-Reine, même si on a tenté d'appeler cette ville Bourg-l'Égalité.
Voilà. Oui, ou comme Marie et la Machine, à la place de Marie-le-Roi.
Alors, raconter la langue, c'est s'intéresser à l'histoire, c'est s'intéresser aussi à notre époque et écouter comment parlent les politiques. En préparant cette émission, nous avons retrouvé un montage d'une émission de France 2 datant de 2017, en pleine campagne électorale, donc pour la présidentielle, avec un candidat qui s'appelait, enfin il s'appelle toujours, mais il n'est plus tout à fait candidat, il est président, Emmanuel Macron.
Pardon de vous le dire, mais... Non, pardon de vous le dire. Mais tous les poids lourds sont du passé, pardon de vous le dire. Hein.
Ah bon mais... Vous êtes et pour et contre.
Non, je suis, pardon de vous le dire, je suis pour une transition. C'est, excusez-moi de vous le dire, on a le droit de ne pas être enfermé dans une boîte. Bon, moi, pardon de vous le dire, on leur donne pas des vraies formations aujourd'hui. Pardon de vous le dire.
C'est vous qui parlez au système médiatique, Emmanuel Macron.
Non, pardon de vous le dire, moi je parle aux Français. Faut ouvrir les yeux, pardon de vous le dire, pardon de vous le dire. Mais attendez, excusez-moi de vous dire, ils n'ont pas été là, pardon de vous le dire.
Pardon de vous le dire, 16 fois en une heure et demie, bien sûr, c'est un concentré que vous avez entendu là. Cela révèle quoi pour vous, James, vous qui avez ce regard un peu caustique sur la linguistique et la sémantique?
Bah, c'est une antiphrase, c'est-à-dire qu'en fait, il dit l'inverse de ce qu'il pense. Quand il demande pardon d'expliquer quelque chose, en fait, il fait comprendre à la personne qu'elle est bête et qu'il doit lui faire la leçon, justement. Et il prend une tournure positive pour évoquer quelque chose de négatif.
Donc déjà, le mépris.
Oui, oui, quand même, je pense. C'est-à-dire que, il voulait faire de la pédagogie, parce que c'est aussi le grand terme de macroniste, c'est faire de la pédagogie, parce qu'on n'est souvent pas assez intelligent pour comprendre leur intelligence.
Vous intéressez beaucoup au langage politique et vous consacrez d'ailleurs un chapitre à cela, comment tout le discours politique s'est imprégné de l'environnement numérique avec cette formule extraordinaire qui est le changement de logiciel.
Qui ne veut plus rien dire. Enfin, c'est vraiment une formule creuse qui veut, voilà, c'est juste changer les idées, changer les programmes. Mais ils ont voulu se raccrocher un peu au wagon de la modernité en utilisant le terme logiciel. Mais ce qui fait que maintenant, ils sont un peu aussi dépassés en restant sur ce vocable-là, puisque la technologie évolue beaucoup plus vite qu'eux.
Oui, le numérique va plus vite que le politique. Alors, toutes les évolutions du langage sont dans votre livre. On ne dit plus province, par exemple, mais territoire, parce que province avait un petit goût de colonisation. Ça s'appelle un euphémisme, ça, de dire territoire en lieu et place de province.
Fait, oui.
On apprend tout sur les euphémismes. Hein, c'est très couru dans le français du 21e siècle, c'est-à-dire on n'est plus un vieux, on est un senior, par exemple. On apprend aussi tout sur les litotes, sur les antiphrases. Il y a un exemple, c'est la page 25. J'aimerais que vous me racontiez ou que vous me lisiez la page 25, parce qu'elle synthétise tout à fait cette question-là des euphémismes, des litotes et des antiphrases. C'est quoi? C'est le personnage face à trois jeunes femmes.
À trois autres personnages qui, eux, incarnent chacun une des figures rhétoriques, donc ce soit la litote, l'euphémisme ou l'antiphrase. Et donc la première personne lui dit « Mais vous n'êtes pas trop doté capillairement, mon pauvre. » Donc là, c'est une litote. Je dirais plutôt que vous êtes en situation de précarité pileuse. Donc là, on est plutôt sur l'euphémisme. Et la dernière lui dit « Quelle chance de faire des économies de coiffeur. » Donc là, typiquement l'antiphrase, comme je parlais tout à l'heure pour Macron, c'est... Et donc notre pauvre personnage chauve qui répond « Oui, oui, bon, je suis chauve, vous pouvez utiliser ce mot, oui. »
Ça, c'est l'humour, James, non?
Oui, ouais. Bah, j'essaye de... Oui, avec teinté d'ironie, et donc forcément teinté de pas mal de litotes, parce qu'en fait, la litote est souvent l'usage, et l'antiphrase sont souvent utilisées dans l'ironie. Donc effectivement, j'utilise pas mal ces figures de rhétorique que je viens d'exprimer d'ailleurs.
Mais c'est vrai que l'humour a besoin du langage.
Oui,
l'humour est basé beaucoup, surtout l'humour à la française est basé sur le langage.
Oui, et puis moi, en tout cas, tel que je l'écris, c'est comme ça que je le conçois. Après, j'ai aussi fait des humours, j'ai fait de l'humour absurde, purement visuel, donc là, c'est un autre plaisir. Mais effectivement, je trouve que les idées, c'est ce que j'avais étudié justement quand j'étais étudiant. Sur le langage, à savoir la pensée, le langage, qu'est-ce qui fait l'un ou l'autre. Et en fait, bon, c'est une interaction permanente. Et donc, même pour dessiner, en fait, le langage intervient.
À qui est destiné cet album? Est-ce que c'est à tous ceux qui disent que, par exemple, les jeunes ne savent plus parler?
Oui, bien sûr. Après, moi, l'idée, c'est de parler à tout le monde. C'est-à-dire que je ne cherche pas à incarner un camp en particulier. Bon, j'ai mon biais, forcément, qui est que la langue évolue et que c'est à nous aussi de suivre l'évolution de cette langue. Et donc, ça ne sert à rien d'être arc-bouté sur des principes, surtout quand les principes sont faux. Il y a des règles, par exemple, chou. Je ne sais pas si vous avez appris à l'école à écrire chou avec un X au pluriel,
etc. Oui, forcément.
C'est né d'une erreur, en fait, à la base. Une erreur de transcription. transcription. C'est-à-dire qu'en fait, les moines à l'époque, quand ils écrivaient beaucoup de termes en US, en latin forcément, ils ont créé un caractère qui collait le U et le S, qui était pris ensuite pour un X. Et après, ceux qui venaient après lisaient Shox, ils se sont dit, mais non, mais on dit chou, donc ils ont rejeté le U. Mais alors qu'avant, chou s'écrivait avec un S.
Et voilà comment on a perdu des points dans les dictées quand on était gamin.
Oui, mais comme quoi, il faut se méfier des règles, en fait.
C'est vrai que cet album, c'est un éloge de la liberté, et un éloge pour une langue vivante, enfin, quelles que soient les approximations, les erreurs qu'on peut avoir. Et les jeunes pourraient le lire avec gourmandise, même s'ils ont leur vocabulaire en tout ça, ce que Lucie Bouteloup aime à faire parler.
Comment ça va, mon ref?
Tranquille.
Quand ça va pas bien en mode triste, on peut dire « ouais, je suis dans un zion ». C'est genre en mode « je suis dans un autre monde ».
Moi, je peux dire « soit je suis dans le mal, on a des problèmes », ou sinon on dit « c'est la D ».
On dit par exemple « bah ça va pas parce qu'il y a quelque chose qu'il y a dans notre vie qui est gaze ».
On dit ça à Marseille, genre on dit « ouais, t'es une merguez », en mode « t'es nul ».
Je sais pas si c'est encore à la mode, mais genre, nous on le dit encore avec mes potes. Quand tu dis « oh le pauvre », on dit « miskin ». Je crois que c'est un mot arabe à la base.
On dit par exemple « miskin, tu t'es fait recal, t'as perdu de l'aura ».
C'est à la cantine, tu fais tomber ton plateau, on dit « tu perds de l'aura », c'est-à-dire « tu perds en crédibilité ». Quoi.
James, ça vous inspire quoi, ces gamins qui parlent avec leur vocabulaire parfois un peu hermétique, hein?
Oui, bah disons, je m'inspire d'eux déjà. Enfin, là, j'essaie de les écouter, les comprendre. Je pense que c'est aussi notre rôle quand on est un peu plus âgé, plutôt que de leur faire la leçon, d'essayer d'aller vers eux. Mais c'est ils réinventent le langage. C'est aussi l'inventivité qu'il faut voir derrière tout ça.
Donc tout fout le camp, non, c'est faux, c'est complètement réac de dire ça.
Non, mais enfin, de toute façon, rien n'est. Tout est un peu cyclique. Enfin, rien n'évolue vraiment dans un sens ou dans un autre. Donc, je ne suis pas inquiet.
Donc, vous n'êtes pas pessimiste?
Sur la langue, non. Non, franchement. Après quand on est prof, on peut être. Voir des choses qui ne fonctionnent plus, mais je pense que la langue, elle, va continuer très bien.
Le parler, les expressions françaises populaires ou recherchées, bien voilà la marque de Lucie Bouteloup, comme toutes les semaines dans l'émission. Je vous la présente, c'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Alors heureuse?
Et toujours, surtout quand je suis en studio avec vous.
Oh.
La preuve, aujourd'hui j'ai envie d'être là juste pour tailler le bout de gras.
Ah.
Paf.
Paf.
Là voilà l'expression du jour, tailler le bout de gras. Alors, d'où elle vient et dans quelles circonstances on l'utilise? La réponse tout de suite avec Géraldine Moinard, lexicographe et directrice de rédaction aux éditions du Robert. Mais avant, comme d'hab...
Les enfants.
Moi, je pense que ça veut dire beaucoup, beaucoup parler toute la journée. Le gras, des fois, il y a des gens, ils aiment beaucoup et du coup, on parle beaucoup.
Peut-être que ça veut dire se disputer sur quelque chose à manger, parce que discuter, ça veut dire que chacun veut le bout de gras.
Moi, je pense que ça veut dire parler sans intérêt, parler beaucoup sans vouloir parler.
C'est discuter beaucoup, parce que gras, ça veut dire gros, beaucoup.
Je pense que ça veut dire parler fort, parce que le début de gras, c'est G-R-A, et ça fait penser à grand, G-R-A.
Ça veut dire qu'on veut tous parler, comme si quelqu'un coupait la parole à tout le monde et du coup, personne d'autre pouvait parler.
Bonjour Géraldine Moinard.
Bonjour Lucie.
Alors, tailler le bout de gras, on a bien compris que les enfants, c'était pas très évident pour eux. Hein.
Non, alors ils émettent des hypothèses intéressantes, mais c'est pas tout à fait ça. Hein.
Elle date de quand, cette expression?
Eh bien, on ne sait pas trop. Moi, les premières attestations que j'ai trouvées de cette expression en français, c'est fin du 19e siècle.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tailler le bout de gras?
Tailler le bout de gras ou discuter le bout de gras, c'est tout simplement discuter, parler de choses et d'autres.
Alors, tailler le bout de gras, il y a plusieurs hypothèses, c'est pas bien clair. La première hypothèse, je crois qu'elle vient de l'anglais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Géraldine?
Oui, alors, tailler le bout de gras, discuter le bout de gras, ça pourrait être la traduction d'une expression anglaise argotique, to chew the fat, qui signifie littéralement mastiquer la graisse, et qui existe aussi d'ailleurs sous la forme to chew the rat, mastiquer les chiffons. Et ça veut dire exactement la même chose en anglais, parler, discuter, plutôt en se plaignant.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de mastiquer les chiffons ou de mastiquer le gras?
Alors, pourquoi mastiquer le gras? Il y a plusieurs hypothèses, aucune n'est vraiment très prouvée. La première, ça viendrait des gens qui sont un peu défavorisés et qui, lorsqu'ils recevait des invités, décrochait un bout de jambon avec le gras, parce que c'était précieux le jambon, pour discuter avec leurs invités. Et donc, ils discutaient en mâchonnant ce petit bout de gras.
Oui, discuter autour de la nourriture.
Voilà. Petit apéro, on discute, on va dire ça comme ça. Deuxième hypothèse, ça pourrait venir d'une plaisanterie des Cockneys, hein, ces londoniens des classes populaires, qui auraient étendu le verbe to chat, qui signifie discuter, en to chew the fat. Donc on retrouve le mot chat dans chew the fat. Bon, assez peu probable quand même.
Et troisième explication qui viendrait peut-être cette fois-ci des marins.
Oui, des marins qui, lorsque les vivres à bord commencent à manquer, avaient droit à de toutes petites parts de porc salé, donc avec la graisse pour ne rien gâcher. Et tout en mastiquant cette graisse, ils pouvaient bien entendu discuter et surtout se plaindre, grommeler de leurs conditions de marin dans lesquelles ils n'avaient pas toujours à manger. Donc d'où l'idée que to chew the fat, c'est discuter en se plaignant. Une hypothèse intéressante, mais encore une fois, il n'y a vraiment aucune preuve là-dessus. Et moi, je la trouve un petit peu pas très convaincante, tout simplement parce que dans l'Oxford English Dictionary, qui a une référence en matière d'étymologie de l'anglais, la plus ancienne trace écrite de chew the fat date de 1916. Or, à la fin du 19e siècle, on trouve en français des phrases comme « il n'y a pas gras à discuter avec mon épouse » ou « discuter gras sur le temps qu'il fera ». Donc on a déjà l'expression « discuter le bout de gras » qui est déjà en formation en français avant l'apparition de l'expression en anglais.
Mais est-ce que gras, ça serait pas comme beaucoup, discuter beaucoup? Alors, ça nous dit rien sur le bout. Hein.
Ça nous dit rien. C'est possible, c'est assez peu probable. Moi, je vois une explication qui pourrait être assez simple. Effectivement, dans les classes populaires, les ménages pauvres, la nourriture manquait parfois et on peut imaginer qu'on discutait du plus petit bout de nourriture, du moindre bout de gras était un sujet de discussion et d'attention.
Alors cette expression, elle m'a quand même fait penser à une autre expression qui est tailler une bavette. Parce qu'on taille le bout de gras et on taille la bavette, qui veut dire d'ailleurs la même chose. Hein.
La même chose, discuter. Et on a l'impression que tailler une bavette pourrait tirer son origine aussi dans le fait de couper la viande, la bavette, la viande, mais en fait pas du tout. Hein. La bavette, c'est l'ancien nom du bavoir. Donc c'est plutôt l'idée de baver, de parler en postillonnant et de devoir mettre un bavoir.
Et puis une autre expression encore qui est défendre son bout de gras. Oui. Pour dire qu'on défend ses intérêts.
On défend ses intérêts. Donc le bout de gras, on voit qu'il a une certaine importance en français, que c'est quelque chose auquel on tient.
Alors, au Brésil, on parle par les coudes. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être amusant. Que parce qu'on bouge beaucoup les mains. Au Canada, on babine, on placote aussi. Et sur le continent africain, on dira volontiers qu'on palabre. Merci Géraldine Moinard d'être venue placoter avec moi autour de cette expression. Une expression que vous pouvez donc retrouver sur le site de RFI Français Facile, mais aussi sur le blog du Robert. Dis-moi Robert, à bientôt Géraldine.
Merci Lucie.
Ah, les bonheurs du placotage. Merci à toutes les deux. James, la langue, les langues, c'est finalement un sujet inépuisable. Vous avez écrit de nombreux albums autour de cette question-là. Et puis là, c'est le tome 2 de la sémantique, c'est élastique. Il y aura un 3, un 4, un 5 ?
Peut-être. Après, c'est au rythme de mes publications dans la revue Dessinée, qui est un trimestriel, donc ça ne va pas non plus très vite. C'est que tous les 3 mois, mais là, j'en suis déjà à 43 rubriques. Ouais.
Et vous avez prévu la prochaine ?
La prochaine, oui, ce sera sur l'usage des majuscules ou des lettres capitales, enfin, pareil. Et notamment pourquoi on doit mettre un D majuscule à Dieu et un I majuscule à Internet.
Et pourquoi ? Je vous demande de spoiler.
Là, on va loin. Non, bah, Dieu, parce qu'en fait, c'est pas tellement parce qu'on le respecte ou quoi, c'est qu'on le prend comme un prénom, en fait. C'est comme quand on met une majuscule à maman ou papa quand on s'adresse à eux. Voilà, c'était juste, ça devient un nom et Internet, parce qu'en en fait, on voulait séparer Internet de Internet à un I minuscule, parce qu'il y a l'Internet global. Et les internets, qu'en fait, tous les réseaux informatiques sont des internets.
Il faut vous lire absolument. Merci, voilà. James. La sémantique, c'est élastique. Tome 2 est publié aux éditions Pataquès, voilà, voilou. Et le tome 1 l'était aussi. Ce sont les éditions Delcourt. L'un a une couverture bleue, c'est le tome 2. L'autre, rouge, c'est le tome 1. Pour tout savoir de l'histoire de la langue française et de la sémantique, de la révolution française à la langue SMS. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation. Programmation, Cécile Lavolo. Laura Pinto à la réalisation et bien sûr vous pouvez nous réécouter sur rfi.fr sur l'application Pure Radio. C'est bon pour cette émission, c'est bon pour toutes les autres. Ok.